La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite à prendre 1 Pierre 1, versets 13 à 21. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints de toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu.
Merci Jérémie d'avoir lu pour nous ce texte qui va servir de base la réflexion spirituelle que je vous propose durant le temps du sermon. Ce sera un temps de réflexion spirituelle. Et si vous n'avez pas ouvert votre Bible dans le livre de Pierre, cette première épître au chapitre 1er, je vous invite à le faire. Dans 1 Pierre 1, nous allons nous concentrer sur les versets 13 à 21. Vous avez remarqué que ces versets forment une unité littéraire. Il est question d'espérance au verset 13. Ayez une entière espérance. Et le verset 21, nous dit que cette espérance doit reposer sur Dieu. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu découragé. Peut-être que vous avez du mal à décoller, comme on dit. Que votre vie chrétienne laisse à désirer. Que vous vous sentez indigne d'un chrétien, d'être appelé chrétien. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes atteint d'une certaine maladie qu'on pourrait appeler le perfectionnisme. Alors, cela peut sembler surprenant, mais il faut savoir que dans nos rangs, il y a beaucoup de gens qui souffrent du syndrome de perfectionnisme. Ce désir tout à fait louable de bien faire, mais ce constat récurrent de l'échec et cette foi qui végète, qui ne grandit pas, cette impression de faire du surplace ou de reculer. Je crois que Pierre, dans sa vie, a appris ce qu'est le perfectionnisme parce qu'il a été atteint de cette maladie spirituelle, notamment quand il prétendait pouvoir suivre le Christ n'importe où. Et là, il s'est bien trompé. Et j'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur le verset 13. L'apôtre Pierre nous dit, écoutez bien ce que je vais dire, c'est important. Avec cette expression, saignez les reins de votre entendement. Autrement dit, éveillez votre esprit. Mettez-vous dans les dispositions requises pour réfléchir. Et bien sûr, après la réflexion, l'action. Mais d'abord, il va vous falloir tenir votre esprit en éveil. J'espère que vous avez l'esprit en éveil ce matin. Parce que la parole de Dieu est là pour stimuler notre intelligence, notre entendement. Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce que Dieu a à nous dire? Pour cela, il nous faut aussi être sobre. Ne pas avoir d'autres préoccupations que celle d'ouvrir nos oreilles pour écouter la voix de Dieu. Dégager de tout autre souci, de toute autre distraction, peut-être de toute fatigue ou préoccupation inutile. Alors vous êtes prêts ? C'est parti. Remarquez ce que nous dit d'emblée l'apôtre Pierre dans ce verset 13 et qui pour moi était une redécouverte. Une redécouverte de l'Évangile dans toute sa beauté, dans sa totalité. Et donc, par là aussi, une redécouverte du plan du salut. Nous sommes invités ici à mettre notre espérance dans la grâce, n'est-ce pas ? Parce que là, tout va bien. Mettons notre espérance en Jésus-Christ, qui nous a rachetés en quelque sorte, qui nous a volés au ravisseur, qu'est le diable, Satan, qui jusque-là prétendait avoir sur nous une emprise telle qu'il pouvait disposer de notre vie. Mais cette vie, Jésus l'a rachetée. Et c'est au verset 18, au cœur de ce passage, que cela nous est rappelé. Nous savons que nous avons été rachetés par Christ, donc que nous lui appartenons. Nous avons été rachetés d'une vie, donc délivrés, d'une vie livrée au mal et d'une vie qui a pour fin la mort, la destruction. Afin que nous suivions les traces de notre Sauveur, donc qui, lui, a choisi de nous offrir l'éternité. Et cela, dès la fondation du monde, avant même de créer notre monde. Cette grâce, oui, nous l'avons en Jésus-Christ. Et nous sommes habitués à parler de grâce, c'est-à-dire de pardon, de vie nouvelle, de renouvellement de la foi, de l'espérance. Mais notez ce que l'apôtre Pierre précise concernant cette grâce. Il nous dit qu'elle nous sera apportée quand ? Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ah bon ? Je croyais qu'on pouvait en jouir tout de suite. Il faut ici placer sa grâce, son espérance, pardon, dans une grâce qui nous sera apportée, donnée, lorsque Jésus-Christ reviendra. Qu'est-ce qu'une grâce ? Le mot signifie proprement une faveur qui est accordée librement à quelqu'un. Un don gratuit, un bienfait. Donc, ce don dont il est question nous sera accordé lors du retour de Jésus-Christ. Oui, ayez une entière espérance dans cette grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Voilà ce que nous lisons dans la version seconde, qui est une version classique. Mais la Bible en français courant traduit « Mettez toute votre espérance dans la grâce qui doit vous être accordée lors de la révélation de Jésus-Christ. » La traduction œcuménique de la Bible « Mettez toute votre espérance dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. » Tiens, tiens, est-ce que cela ne stimule pas un petit peu votre esprit, votre pensée ? Quelle est cette grâce qui nous sera accordée lorsqu'il apparaîtra et qui ne peut pas nous être accordée avant cela ? Alors, littéralement, le grec dit « espérer complètement, jusqu'au bout, dans cette grâce » qui se trouve dans la révélation de Jésus-Christ, qui trouve donc son accomplissement, sa plénitude son achèvement dans la révélation de Jésus-Christ. C'est ça l'idée. Mettez votre espérance dans la grâce qui trouvera son achèvement, sa réalisation, lorsque Jésus-Christ sera manifesté en gloire. Et quelle est donc cette grâce qui nous sera accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra et dont nous ne pouvons pas encore jouir maintenant ? Eh bien, l'apôtre Paul, à ce sujet, a été très clair. Dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, il nous dit les choses suivantes. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 42. Il nous parle de la résurrection des morts. Cette résurrection aura lieu justement lorsque Jésus-Christ apparaîtra dans toute sa splendeur, lorsqu'il sera révélé. Que se passera-t-il à ce moment-là ? Verset 42. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite comment ? Incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, autre traduction, corps naturel ou corps psychique. Il ressuscite corps spirituel. » S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, c'est Adam. C'est aussi la descendance d'Adam. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres, vous et moi. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Aujourd'hui, donc, ceux qui vivent au ciel. Je pense d'abord, bien sûr, aux anges. Et remarquez la fin de ce passage. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste au futur. Il est donc question de cette grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus-Christ reviendra et qu'il délivrera son peuple des liens de la mort. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Or, nous sommes aujourd'hui de chair et de sang. Et tel que nous sommes aujourd'hui, nous ne pouvons hériter le royaume de Dieu. Quoi que nous fassions, nous ne pouvons hériter le royaume de Dieu car nous sommes de chair et de sang. Il faut qu'une transformation ait lieu, une transformation de nature. Parce que la corruption, n'hérite pas le royaume de Dieu. Elle ne peut pas hériter donc l'incorruptibilité. Et ceci est un mystère, et c'est pour ça qu'il va parler de la transformation nécessaire dans la vie des croyants qui seront vivants lors du retour du Christ. Voyez donc, il y a une grâce qui doit être apportée, une grâce spéciale lorsque Jésus reviendra. Cette grâce, c'est l'incorruptibilité ou l'immortalité. Car aujourd'hui, nous sommes sujets à la maladie. Nous sommes sujets à la mort. À ce moment-là, nous ne le serons plus. Aujourd'hui, nous vivons dans un corps qui est infirme, qui est méprisable. Nous recevrons un corps glorieux. Aujourd'hui, nous sommes soumis aux conséquences du péché. Lorsque Jésus-Christ sera manifesté, nous ne le serons plus. Aujourd'hui, nous sommes, l'apôtre Paul le dit, infirmes, littéralement pleins de faiblesses. Lorsqu'il reviendra, nous serons remplis de force. Aujourd'hui, nous avons un corps matériel, pourrions-nous dire, un corps animé du souffle de Dieu, un corps tiré du sol. Alors, nous recevrons un corps spirituel, un corps nouveau, qui ne sera plus soumis aux lois de la physique, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, l'apôtre Paul est clair, nous recevrons une grâce lorsque Jésus-Christ reviendra. Cette grâce, c'est l'immortalité, la gloire, la puissance ou la force, et un corps tout à fait différent de celui que nous avons aujourd'hui, avec des propriétés différentes. Pensez aux propriétés du corps du Christ après sa résurrection, n'est-ce pas ? Et l'apôtre Paul est clair, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que vous êtes prisonnier du corps que vous avez aujourd'hui, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous préparer à entrer dans ce royaume, mais j'ai dit que tel que vous êtes aujourd'hui, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux, quoi que vous fassiez. Même si vous êtes presque au bout d'un processus de sanctification que vous avez commencé il y a 20 ou 30 ans, et que vous pensez que vous êtes au seuil du paradis, tant que vous êtes dans ce corps, vous ne pouvez pas entrer. Ça, c'est une grâce qui nous est réservée lorsque Jésus-Christ reviendra. Et l'apôtre enfonce le clou, parce que dans le chapitre 13 de cette même épître, ça vous dit quelque chose ? L'hymne à l'amour, hein ? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et ainsi de suite. Au verset 12, il dit ceci de ce chapitre 13. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. » Ah, encore une grâce, voir Jésus face à face. Cela nous sera possible, parce que nos corps ont été changés. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Et il dit aussi, aujourd'hui je connais en partie, ah, le verbe connaître, hein, on pourrait développer, aujourd'hui nous aimons en partie, aujourd'hui nous apprécions ce que Dieu a fait pour nous en partie, mais alors nous le connaîtrons comme il nous connaît, extraordinaire. Et l'apôtre Jean derrière va dire dans sa première épître, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été révélé, n'a pas encore été manifesté. Il vous faut patienter jusqu'au retour de Christ. Il faut patienter jusqu'à ce que cette grâce vous sera accordée. Une grâce supplémentaire, bien sûr, à celle dont nous jouissons déjà. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, 1 Jean chapitre 3, 2 et 3, pour ceux qui aiment vérifier dans leur Bible, nous serons semblables à lui. Lorsqu'il paraîtra, notez ça, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ah, nous pourrons être pleinement semblables à lui après avoir subi cette métamorphose, après avoir reçu un corps immortel, rempli de force spirituelle, un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps spirituel. Ah, ça on l'oublie parfois. Et beaucoup aimeraient jouir de cette grâce avant le retour du Christ. Aimeraient disposer d'un corps invincible, d'un esprit invulnérable, de la capacité de mener tous les combats au nom de l'Éternel, de les remporter tous. Pourquoi pas ? Mais on constate dans la réalité que cela est bien difficile. Oui, parce que nous ne disposons pas encore de ce corps libéré des entraves du péché. Alors, vous allez me dire, mais les textes, si on y regarde bien, si on les regarde de près, les textes du Nouveau Testament convergent tous pour dire « Le peuple de Dieu, lorsque Jésus revient, sera irréprochable. » Absolument. Absolument. J'ai trouvé une douzaine de textes qui convergent pour dire que l'Église, lorsque Jésus l'accueillera dans son royaume, sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle sera d'une beauté parfaite, éblouissante, merveilleuse. Pas une tache, pas une ombre qui viendrait ternir le tableau. Je pourrais mentionner, j'ai trouvé une douzaine de textes qui vont dans ce sens-là, pour dire que lorsque le Christ paraît, cette Église, ben voilà, Christ a aimé l'Église, hein, parmi d'autres, hein, afin de la sanctifier, de la purifier, de la laver par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Oui, voilà ce qui va arriver. Lorsque le Christ invitera l'Église dans cette salle de noces qu'est son royaume, eh bien, elle aura revêtu le fin lin. Et ce fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, comme cela est dit dans l'Apocalypse. Alors, que faut-il penser de tout cela? Faut-il penser que nous devons, nous maintenant, forcer les choses de sorte que le Christ puisse nous accepter lorsqu'il reviendra, et peut-être, d'une certaine façon, aspirer à recevoir cette grâce dont parle l'apôtre Pierre avant l'heure. Il y a un temps pour tout. Je ne dis pas que nous sommes impuissants face au péché. Je dis que nous devons reconnaître notre faiblesse face au péché. Je ne dis pas que la victoire est impossible. Je dis que la victoire est conditionnelle. Je ne dis pas que Dieu n'a pas déversé sur nous grâce sur grâce. Je dis que cette grâce revêt différentes formes. Mais que nous ne devons pas penser qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de résister au mal, comme si nous étions privés, en quelque sorte, de notre corps naturel. Il y a quelque chose en nous de foncièrement fragile, quelque chose qui a déjà été abîmé, cassé, tordu, et que le Christ s'applique à redresser, à réparer. Alors comment distinguer le perfectionnisme, qui est une sorte de maladie, qui est une sorte de crainte de ne pas être à la hauteur, la peur de manquer le rendez-vous, la peur de ne pas être parfait lorsque Jésus reviendra, la peur de finalement d'être repoussé, parce que sur notre vêtement, il pourrait y avoir une tache, comprenez, parce que nous pourrions présenter un caractère défectueux. Et donc, nous atteler à la tâche et nous efforcer de toutes nos forces de paraître devant Dieu comme quelqu'un qui s'est débarrassé en quelque sorte de tout ce qui l'empêche d'être saint ou pur. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que dans ces textes, si vous regardez bien, oui, il y a une invitation à progresser. Oui, il y a une invitation à grandir. Mais c'est un processus qui doit se poursuivre jusqu'au retour de Jésus-Christ et qui ne s'accomplira pleinement que lorsqu'il reviendra. Et d'abord, l'apôtre Pierre lui-même est explicite. Il nous dit « Oui, soyez obéissants ». Alors d'abord, il rappelle que cette grâce nous sera apportée lorsque Jésus reviendra. La grâce d'être véritablement semblable à lui, jusque dans notre nature. Et à partir du verset 14, il dit, mais étant donné que vous avez cette perspective, obéissez. Battez-vous contre vos convoitises, vos mauvaises passions. Faites preuve de respect de la volonté de Dieu. Il utilise ici le mot crainte au verset 17. Cette crainte, c'est le sens de nos responsabilités. Mais tout ça, il le rattache à ce que Jésus a fait pour nous. Et il nous dit que cette transformation a lieu petit à petit dans notre vie parce que nous avons reçu de Jésus-Christ le salut. Et vous voyez que c'est dans ce cadre qu'il peut dire, vous aussi, hein, puisque vous êtes appelés à rencontrer Dieu, appelé à être saint, eh bien, devenez saint. Et au verset 15, le verbe qui est utilisé par Pierre est très précis, c'est le verbe devenir, et non pas être. Il dit devenez saint. Dans toute votre conduite, c'est pour maintenant, devenez saint. C'est pas pour plus tard. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Et là, l'apôtre Pierre emploie un futur de l'indicatif. Vous serez saint. Autrement dit, une promesse. Et il nous libère de l'obligation d'être saint ici et maintenant, tout de suite, mais d'aspirer à rencontrer Dieu tout simplement. Alors, vous allez me dire, c'est un peu compliqué comme sujet. Il faudrait peut-être qu'on ramasse nos idées et qu'on aille à l'essentiel. Et pour ça, j'ai préparé pour vous un tableau qui permet de distinguer justement ce qu'on pourrait appeler le perfectionnisme de la perfection. C'est très subtil, c'est pour ça qu'il est difficile d'en parler sans faire un pas de travers. Mais, vous voyez, il y a deux tendances dans la vie du chrétien. Il y a celle qui est orientée vers le perfectionnisme et celle qui est orientée, on va dire, vers la perfection chrétienne, qui est d'un tout autre ordre. Parce que dans l'imperfection, ce n'est pas l'homme qui agit, mais c'est Dieu. Ce n'est pas l'effort humain qui produit la sainteté, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'action de l'Esprit. Et là, dans chacun de ces textes qui disent que l'Église sera irréprochable au retour du Christ, il est bien précisé que c'est Dieu qui produit cette perfection. Toujours, toujours, toujours. C'est Dieu qui le fait. Vous avez 1 Thessaloniciens 17, versets 23 et 24, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. » Encore, c'est lui qui le fait. Voyez, « Qu'il conserve votre esprit, votre âme, votre corps irréprochable lors de l'avènement de Jésus-Christ. » Donc le but, c'est que lorsqu'il revient, corps, âme et esprit soient à l'image du Créateur et du Rédempteur. Mais il ajoute, « Celui qui vous a appelé fidèle, c'est lui qui le fera. » Et dans chaque texte, on reconnaît la main et l'action de Dieu. Il vous affermira. C'est lui qui a commencé en vous cette œuvre et qui l'amènera à son terme. C'est lui qui fera paraître devant lui cette Église. Il vous affermira. Il vous fera croître et abonder dans l'amour. Il affermira vos cœurs. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Alors comment distingue-t-on le perfectionnisme qui est un travers de la perfection chrétienne? Le perfectionnisme considère le verbe « être », notamment « être saint », comme un impératif. Et la perfection dit « c'est devenir saint qui est un impératif ». Vous sentez la nuance? C'est « devenir saint qui est un impératif ». Le perfectionnisme dit « je dois être fidèle aux promesses de Dieu ». Ça, c'est une prémisse. La perfection chrétienne dit « Dieu est fidèle à ses promesses. » Dans le perfectionnisme, je dois le faire. Je dois. Autrement, je serai repoussé. Dans la perfection, on va dire, il le fera. Le perfectionnisme dit, il faut être sans péché. Sinon, pas d'avenir pour nous. Pas de salut. La perfection dit, entre dans un processus de sanctification. Laisse-toi porter par Dieu. Accepte sa promesse. C'est lui qui s'en charge. Il le fera. Le perfectionnisme est focalisé sur la destination. On veut obtenir ce que l'on sera au retour du Christ, dès maintenant. Comprenez ? On veut avoir le corps aussi à l'image du Christ. Et donc, tout ce qui va avec, hein, parce que le corps supporte l'esprit. Et si le corps est faible, forcément l'esprit aura aussi des faiblesses. La perfection dit, la vie chrétienne c'est un voyage. C'est un voyage qui a commencé au moment où on a fait alliance avec Dieu et qui se terminera, non pas même lorsque Jésus reviendra, mais jamais. Parce que la sanctification continuera encore après. La diapo suivante. Perfectionnisme fait de la perfection, ou de la sainteté, ou de la pureté, une condition de salut. Si tu ne l'obtiens pas, tu ne seras pas sauvé. Ça, c'est le perfectionnisme. Dans la perfection chrétienne telle que Dieu l'envisage, la perfection est une conséquence. L'obéissance, la crainte de Dieu, la quête de sa volonté, c'est une conséquence et pas une condition. Dans le perfectionnisme, la sainteté est un devoir. Tu dois. Dans la perfection, c'est un cadeau. Dieu te l'offre. Accepte-la, cette sainteté. Revêt-toi de la sainteté de Dieu. Ce n'est pas la tienne. Prends celle que Dieu te donne, comme un vêtement, si vous voulez. Dans le perfectionnisme, on regarde à soi. On est dirigé vers l'homme, eis anthropon. On est dirigé vers l'homme. Dans la perfection, on regarde au Sauveur, à Jésus-Christ. On est dirigé vers Dieu. Et j'aime beaucoup la fin de ce passage que nous avons lu au départ. parce qu'à la fin, vous lisez ceci, « Votre espérance, agissez de sorte que votre espérance et votre foi reposent sur Dieu. » Et littéralement, il dit, « Sois tourné vers Dieu. » C'est « eisteon » pour ceux qui comprennent un petit peu le grec, il y en a ici, c'est pour eux. Mais « eis » indique la direction, l'orientation. De sorte que votre espérance et votre foi soient tournées vers Dieu, constamment tournées vers Dieu, et non vers vous-même. Dans le perfectionnisme, on va faire le culte de la performance. Du côté de la perfection chrétienne, authentique, on cultive la relation. On n'est pas sur ce qu'on réalise ou pas, sur ce qu'on a atteint ou pas. On ne mesure pas nos capacités, mais on reste en relation avec Dieu et on apprécie cette relation. On cultive la relation. Dans le perfectionnisme, on est tenté de s'auto-glorifier si l'on a obtenu une victoire éclatante. Mais attention, souvent les victoires dont on se glorifie conduisent à de brûlantes et cuisantes déconvenues, défaites. Dans la perfection, c'est Dieu seul qui est glorifié, à lui seul la gloire. Tableau suivant, vous voyez comment on arrive à mieux distinguer maintenant, petit à petit, la contrefaçon de l'original. Dans le perfectionnisme, on mésestime la faiblesse humaine. C'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si on avait un corps, waouh, de Superman. Vous voyez, on aimerait bien tous, on rêve d'être Superman, mais on ne l'est pas. Dans la perfection, on reconnaît et on confesse la faiblesse humaine. Cette faiblesse que l'on porte avec soi jusqu'à la mort. On la confesse jusqu'à la mort, cette faiblesse. On la confie à Dieu. Pour qu'il en fasse une force, comme a pu le dire l'apôtre Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans le perfectionnisme, on craint le jugement divin, c'est une épée de Damoclès. Attention, tu vas être pesé sur la balance. Dans la perfection, on a confiance en Dieu, parce que l'amour qu'on a pour lui bannit la crainte. Dans le perfectionnisme, on va observer scrupuleusement, ou désirer, la loi écrite, ce qui n'est pas une mauvaise chance en soi, mais on se limite à cela. Alors que dans l'imperfection, on observe d'abord la loi d'amour, c'est ce qui nous motive. C'est qu'on a compris que la loi est l'expression du caractère de Dieu qui est amour. Et on la vit de manière détendue, non pas crispée, on n'a pas une attitude crispée, mais une attitude détendue. Parce que la loi entière est une promesse et non pas un impératif. Importance donnée au péché d'un côté. Ah, le péché! On lui donne beaucoup d'importance et on a tendance à se focaliser sur lui. Là, on tombe vite dans les ornières du perfectionnisme. De l'autre côté, on va se focaliser sur le pardon et la guérison que Dieu offre. Et enfin, dernier tableau, on va finir avec des choses extrêmement positives du côté, notamment de la perfection. Quand on est perfectionniste, on sent un poids de culpabilité qui est très fort, très lourd. Quand on est parfait en Jésus-Christ, on vit sous la grâce. On vit de la grâce. Quotidiennement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on se convertit quotidiennement. Dans le perfectionnisme, on va douter de soi, on va se décourager souvent, on va désespérer. Mais Dieu, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi? J'y arrive pas. Dans la perfection, on renouvelle sa foi, son amour et son espérance. Ce sont les deux termes de la fin, foi et espérance. La fin de ce passage, foi et espérance. Dans le perfectionnisme, on tombe vite dans l'amorosité et les inquiétudes. La perfection nous dit, sois joyeux parce que de la joie de Dieu, reçois sa paix, reçois sa paix. On a vu hier que cette paix, c'est une guérison par laquelle nous devons tous passer pour entrer dans le royaume, faire la paix avec Dieu. Du côté du perfectionniste, forcément, c'est l'échec qui nous attend et qui va nous faire trébucher. Du côté de la perfection, c'est la victoire. Vous sentez la différence d'accentuation? Vous sentez la différence? De quel côté êtes-vous? Et je sais qu'on peut passer d'un côté à l'autre, assez facilement. Nous sommes humains, nous avons des vues limitées. Et quand nous sommes de ramer, de produire nos propres efforts pour tenter d'y arriver, alors là, nous sommes du côté du perfectionnisme. C'est nouveau, les symptômes de la maladie qui se manifeste, la maladie que je décris ici. Mais je vous invite, j'en ai dit peu sur ces sujets-là, très peu, mais c'est assez concentré quand même dans ce tableau, mais je vous invite à méditer à nouveau sur ce passage de 1 Pierre 1, 13 à 21, et à comprendre qu'au centre, il y a Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Ce qui en découle, c'est une vie d'obéissance joyeuse. Ce qui en découle, c'est un devenir exaltant. Nous allons devenir, et nous devenons, tels que Dieu est. Nous lui ressemblons toujours plus. Mais ce devenir ne s'accomplira jamais complètement. Et n'oubliez pas cette grâce qui vous sera accordée lorsque Jésus-Christ reviendra. C'est pour ça que nous soupirons après la délivrance. Nous soupirons après la grâce. Il reste une illustration que j'aimerais graver dans vos esprits. Elle représente bien cette hésitation entre le perfectionnisme et la perfection. Regardez à soi, regardez aux vagues ou regardez à Christ. Et l'apôtre Pierre, oui, en a fait l'expérience, c'est pour ça qu'il peut en parler. C'est pour ça qu'il peut dire, ce qui compte, c'est que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, soient tournées vers Dieu, toujours. Et pensez à cette grâce qui vous sera donnée lorsqu'il reviendra. Avancez vers Jésus-Christ, gardez les yeux fixés sur lui, parce que notre condition, c'est celle-là. Nous marchons sur l'eau. Et chaque fois que nous baissons les regards, que nous regardons à nous-mêmes, nous nous enfonçons. Nous nous noyons. Nous prenons la tasse. Et c'est là qu'il nous faut à nouveau regarder à Jésus-Christ qui nous tend sa main, qui nous relève et qui nous fait avancer vers lui. Oui, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Soyez la joie qui est donnée à l'Église dès maintenant. Réjouissons-nous, soyez dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné, c'est un don de Dieu, de se revêtir de fin lin éclatant pur. Le fin lin, ce sont ses œuvres justes des saints. C'est cette avancée sur l'eau extraordinaire, fruit d'un miracle que Dieu opère dans nos vies. La capacité de regarder à lui et de nous purifier, de nous sanctifier dans sa présence, par son esprit, jour après jour, jusqu'à ce que cette grâce nous soit accordée lorsqu'il reviendra. Que Dieu vous bénisse, et je vous laisse avec ce dernier verset qui est à méditer, qui va résumer tout ce parcours. Verset qui dit, je suis persuadé, vous voyez, il n'y a pas l'ombre d'un doute là, que celui qui a commencé cette œuvre en vous, une œuvre parfaite, bah, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen.